Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour, donc nouvelle émission Au ras des rues, autour de la table comme d'habitude, Benjamin.
Bonjour.
Antoine.
Bonjour.
Et Morgane.
Bonjour.
Et Marie-France, voilà. Donc le programme, on n'oublie pas tôt. Patricio qui est à la technique derrière la vitre. Heureusement qu'il fait des gestes et qu'on pour se rappeler à notre bon souvenir. Donc merci à Pato qui nous permet de faire cette émission toutes les semaines. Voilà, donc aujourd'hui au programme, comme d'habitude, on aura l'agenda sur le village, l'agenda, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé à la Villeneuve, au village olympique. Une ou deux interviews à l'occasion du travail collectif au Jardin Olympique, une interview d'un professeur du collège Olympique qui nous parlera d'un projet avec les élèves, d'un projet de club de presse. Voilà. Autrement, un bon morceau sera le compte-rendu des ateliers populaires d'urbanisme qui ont eu lieu, dont l'assemblée a eu lieu la semaine dernière, donc qui couvre des tas de domaines de la vie de nos quartiers. Ensuite, quelques mots sur une manifestation qui va avoir lieu jeudi prochain et qui s'appelle le Forum itinérant des langues du monde en Rhône-Alpes. C'est une manifestation qui a lieu, paraît-il, depuis plusieurs années à Lyon et dans la région. Et cette année, pour la première fois, il y aura un atelier, une rencontre à ce sujet. Donc, nous sommes des quartiers mélangés. Donc, il me semble qu'il fallait en parler de cette rencontre des langues en Rhône-Alpes. Voilà. Alors, le 12 octobre, c'était il y a deux jours, c'est l'anniversaire, si on peut dire, de la découverte, avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, de l'Amérique. 12 octobre 1492, ça doit faire 523 ans que Christophe Colomb, dit-on, a découvert l'Amérique. Je ne sais pas ce qu'ils ont découvert de l'autre côté, on peut essayer d'imaginer. Les aborigènes ont découvert les Européens, avec tous les malheurs qui en sont suivis. Donc la couleur de la musique sera plutôt latine, les morceaux de musique qu'on entendra, salsa, Mercedes Sosa, et éventuellement une petite fanfare de Santiago de Cuba. Voilà. Donc, Benjamin, à toi la parole.
Oui, donc, dans l'agenda du Crieur de la Villeneuve, le journal participatif du quartier de la Villeneuve, on commence avec jeudi 15 octobre, deux réunions qui sont en même temps, donc il faudra faire des choix. Vous avez le choix entre à 17h30 à la maison des habitants des Baladins, donc sur la place des Géants, une réunion organisée en vue de la création d'un atelier de réparation de vélos sur le quartier. Donc ça serait sur le même principe que l'association Le Petit Vélo dans la Tête, qui apporterait d'ailleurs son soutien. Ça serait un atelier ouvert à tout le monde, participatif, où les gens pourraient venir réparer leur vélo et donner un coup de main à ceux qui veulent aider. Filer un coup de main à ceux qui veulent réparer leur vélo. Donc, réunion le jeudi 15 octobre à 17h30. Et toujours le 15 octobre à 18h, réunion salle 150 sur une réunion organisée par les mairies sur les rythmes scolaires. C'est une réunion qui concerne les trois quartiers en V, c'est-à-dire la Villeneuve, le village olympique et Vignes-et-Musset, donc tout le secteur 6 en fait. Donc, les gens sont, et notamment les parents, sont amenés à venir à cette réunion pour discuter des rythmes scolaires, de la gratuité des activités périscolaires, de la participation financière des familles à la garderie et sur l'éventualité de la création d'une pause de midi plus longue pour les élèves de maternelle. Et toujours dans l'agenda, il devait y avoir, c'est programmé normalement samedi 17 octobre à 22h sur la chaîne Public Sénat. C'est la numéro 13, je crois, sur la TNT. Il devait y avoir la diffusion d'un film qui s'appelle Villeneuve, l'utopie malgré tout. Un film réalisé par Vincent Massot et Flore Vienneau. qui sont arrivés dans le quartier de la Villeneuve il y a un an, qui ont commencé un peu plus d'un an, ils sont arrivés en juin 2014. Ils ont rencontré pas mal de gens dans le quartier, ils ont tourné un documentaire. Et en fait, pour la petite histoire, Vincent Masseau est le fils de Claude Masseau. Claude Masseau qui a réalisé le documentaire qui s'appelait Villeneuve, une raisonnable utopie, voilà, qui a été un des tout premiers films tournés à la Villeneuve en 1972, si je n'abuse.
Ah oui, tout au début.
Tout au début de la Villeneuve, voilà.
Bah, elle était en construction.
Ouais, elle n'était pas finie, ouais.
Il y avait seulement l'Arlequin qui
était... Il me semblait encore, je crois que tout l'Arlequin n'était pas sorti de terre encore. Donc, ce documentaire montrait bien l'ambiance qu'il y avait dans le quartier, au tout début, là. Et des extraits de ce documentaire, donc de 1972, ont été utilisés dans le film Envoyé spécial,
assez connu. La fameuse émission qui a fait tellement bouger Villeneuve.
Voilà, qui s'appelait Villeneuve, le rêve brisé, qui a été diffusé en septembre 2013, qui a abouti sur une plainte d'une partie des habitants contre France Télévisions. Et en retour, donc, en fait, vu qu'il y avait des extraits de ce film qui étaient utilisés dans le documentaire d'Envoyé spécial, Vincent Masseau a décidé de faire un contre-documentaire, entre guillemets, un contre-documentaire sur la Villeneuve. Donc, ils ont fini leur film. Il a été projeté hier, mardi 13 octobre, à l'Espace 600. Et donc, il devait être diffusé donc samedi à 10h. Samedi 17 à 22h, sauf qu'il y a eu un référé d'Amandine Chambellan, qui est la journaliste qui a réalisé le reportage Envoyé spécial, qui s'oppose au fait qu'on utilise des extraits de films Envoyé spécial dans ce documentaire. Donc la décision est encore en attente de jugement, donc pour savoir si le film pourra bien être diffusé samedi ou pas. Pour l'instant, ils attendent. Public Sénat, ils n'ont pas l'air trop inquiets, je les ai appelés tout à l'heure, j'ai eu le directeur général de la chaîne, il n'avait pas l'air trop inquiet, apparemment ça se fait souvent ce genre de choses. Donc il était plutôt confiant. Mais donc on donnera plus de nouvelles dans le Crieur d'ici samedi.
Je voulais juste ajouter que...
Antoine,
oui. Le reportage d'Envoyé spécial avait aussi créé l'initiative du Crieur.
Et oui, c'est vrai, on est né de cette mobilisation en fait, des habitants contre le reportage d'Envoyé spécial et de la pétition qui avait émergé dans le quartier. Voilà. Voilà, ça nous tient à cœur quand même.
Oui. Pour faire la transition avec le village olympique, tu pourrais nous parler du repas proposé par les Alfreds.
Je vais même parler du cadre général qui est le mois du développement durable et solidaire qui commence le 17 octobre pour aller jusqu'au 20 novembre 2015. Donc il va se dérouler dans les trois quartiers du secteur 6, c'est-à-dire Villeneuve, village olympique et Vigny-Musset. Donc juste avant de parler du repas des Alfreds, je vais juste vous parler de la journée d'inauguration qui aura lieu donc samedi 17 octobre, appelée jour de fête à l'Arlequin. Donc il y a plein de petites initiatives qui vont être lancées. J'ai pas le temps de tout détailler à l'antenne. Il y aura un broc échange, il y aura un four à pain, il y aura fabrication de produits cosmétiques naturels.
De soupe
aussi, il y aura plein de choses, un atelier de création de meubles en carton, la batucada de la Villeneuve jouera à 11h45 sur la place du marché, et ça sera suivi d'un pot à 12h30, puis d'un repas partagé à 13h, il y aura un concert folk de 13h à 14h30, enfin, il y a plein de choses, et ça se poursuit pendant un mois, donc si vous voulez avoir des informations, allez à la régie de quartier, donc au cœur de la Villeneuve, pour obtenir le programme.
Sinon, ou à la maison des habitants, village olympique.
Voilà, sont dans tous les toutes les MDH.
Voilà.
Dans toutes les MDH. Et donc, dimanche 18 octobre, il y a un repas de quartier anti-gaspillage chez les Alfreds. Donc
c'est l'association culturelle de Vigny-Musset.
C'est ça, tout à fait.
On les a interviewés il y a quelques temps.
C'était la semaine dernière, il y a 15 jours. Je ne sais plus.
15 jours, il me semble.
Et donc ce repas de quartier aura lieu à midi dans la cour de l'école maternelle Marie-Rénoir. Je me souviens plus du nom de la rue. Je ne sais plus.
L'école maternelle.
L'école maternelle Marie-Rénoir, vous demandez à tous les parents, ils trouveront. Voilà, c'est ouvert à tout le monde et il y a un prix de participation qui n'est pas précisé, mais ça ne doit pas être très cher. Voilà.
Merci Benjamin.
Je voudrais juste rajouter Morgan. Peut-être en fait le 15 octobre à 18h, c'est encore un plus grand choix parce qu'il y a aussi une réunion sur l'université populaire.
Non, apparemment elle a été décalée.
Ah, bon. Bah, pardon. Alors,
je ne sais pas quelle date.
Donc, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Voilà, voilà, si on a plus de renseignements. Alors, on peut parler au village olympique. Qu'est-ce qu'on peut dire au village olympique? Donc, moi, du développement durable, j'ai pas les dates précises, mais c'est pareil. Hein, y aura des activités en lien avec le jardin olympique, en lien avec la maison des habitants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a la petite parcelle au square du Pas de l'Aiguille qui va être semée. Il me
semble, ah, non, bah alors.
Le mois du développement durable.
Le Pas de l'Aiguille.
Le Pas de l'Aiguille. Donc, si vous voyez la piscine des Trois Dauphins, le Crous aussi. Là, il y a un petit passage pour qui relie en fait le village olympique à Grand Place.
Oui.
Ben, il y a un petit espace vert en fait au milieu.
On va semer du blé, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Voilà, du blé d'hiver, il me semble.
Du blé d'hiver.
Pour l'avoir lu dans le prospectus de la régie de quartier.
Voilà. On peut évoquer aussi la réfection du stade, le stade du village olympique. Qui était réclamée depuis longtemps par les habitants de quartier, les associations des sportifs, des footballeurs.
Avec l'installation d'une pelouse synthétique.
Une pelouse synthétique, c'était un des points forts des promesses de campagne d'Éric Piolle, notre maire. Et donc, voilà, ce stade va être inauguré le 7 novembre. Donc, il y aura sûrement des discours, des activités, des animations avec, pour les petits, les grands. C'est un stade donc qui était vétuste et qui ne pouvait pas servir, si j'ai bien compris, pour des compétitions qui rentrent dans les calendriers, dans les agendas des sportifs. Donc voilà. Alors.
Est-ce que Éric Piolle va jouer au foot alors?
Je crois que c'est prévu, non? Moi, il m'a donné un coup d'envoi pour un match. Je ne sais pas entre qui et qui. Enfin,
qu'il sera dans l'équipe municipale.
Voilà. Et puis, donc, le terrain qui sera clôturé, qui est synthétique, éclairé. L'interrogation qu'on avait, c'était de savoir si on pourrait, comme ça se passe en ce moment, je crois, avant la réfection, aller faire son footing. Mais bon, je pense qu'il y a des choses qui sont prévues pour une pratique, faire de la course de fond et pour pratiquer le sport dans une circulation périphérique au stade. Parce que le stade lui-même ne sera pas accessible tout le temps à tout le monde, hein, puisqu'il aura une pelouse synthétique fragile. On ne pourra pas faire n'importe quoi sur ce stade. Voilà. Donc, Théâtre Prémol. Théâtre Prémol n'a pas de programmation pour l'instant, à part des ateliers, des choses qui se font régulièrement, d'un travail, le travail constant du théâtre. Mais du 9 au 15 novembre est programmée La Dame Turquoise, qui est une pièce qui mélange musique, théâtre et autour de la culture libanaise. Avec musique, c'est interculturel, chrétien, musulman du Liban. Et on peut mentionner, donc du 9 au 15 novembre, on aura l'occasion d'en reparler, avec une répétition publique qui sera donc ouverte à tous les gens qui veulent venir voir ça, le mercredi 11 novembre à 15h. Voilà.
Vous rappelez que le théâtre Prémol a brûlé au mois d'avril ?
Il a brûlé au mois d'avril, oui, c'était le 18 ou le 19, un samedi soir. Il a brûlé, le toit a brûlé alors qu'il y avait une représentation à l'intérieur. Et donc, toute la partie spectacle, disons, est hors circuit, quoi. Il faut attendre une rénovation, une réfection. Et en attendant, donc, la programmation du théâtre est maintenue. Et les différentes salles de la ville ou de l'agglomération sont venues soutenir le théâtre Prémol. Et que ce soit la Maison de la Culture ou dans d'autres lieux, les activités pourront avoir lieu. Parce qu'il y avait il y a des diverses résidences de travail, des artistes ou des troupes qui viennent travailler pendant un certain temps sur un projet avec le théâtre Prémol et qui ont été dispatchés dans une autre partie dans d'autres salles de spectacle. Voilà. Alors, musique, on avait dit une couleur latine cette fois-ci. Morgane, tu nous en dis plus?
Non, parce que
tu avais envie d'un peu de gaieté et d'un peu de soleil. Voilà.
Dis-moi, Mossa, Mossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, seba, vai. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
On revient sur le village olympique. On n'a pas parlé la semaine dernière, on avait parlé du jardin du village olympique, des jardins partagés. Et cette semaine, samedi dernier, a eu lieu le travail collectif qu'on fait deux fois par an dans le cadre du jardin. Tous les jardiniers s'y mettent. On était à peu près la moitié ou un peu plus que la moitié des jardiniers, une vingtaine ou une trentaine. Et donc... dans l'ambiance, l'interview d'un jardinier heureux, on va pouvoir dire. Et donc, c'était l'ami Larbi qui nous raconte son bonheur d'être jardinier. Voilà. C'était samedi dernier au Jardin Olympique.
On est au jardin, là, c'est le jour des travaux collectifs au jardin. Alors, j'en profite pour demander aux gens pourquoi ils sont au jardin, qu'est-ce qui leur plaît, tout ça. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire.
Ah oui, franchement, je suis très heureux dans ce jardin. Depuis que je l'ai, franchement, ça tombait juste à ma retraite. C'est un cadeau.
Ça fait longtemps là que vous plantez.
C'est la troisième année. La troisième année, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait.
Ah oui.
Franchement, je suis heureux. Je suis très content.
Donc là, je vois qu'il y a encore des tomates.
Oui, il y en a encore.
Qui sont encore en train de mûrir dans les espèces d'espaliers là que vous avez fait.
Ouais, oui.
Même des melons.
Des melons blancs
verts. Oui.
Elles sont pas mal. Elles sont pas mal.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des haricots à rame.
Oui, il y a de l'haricot, oui.
Et qu'est-ce que vous avez eu là?
Il y a des navets, il y a des pommes de terre.
Des pommes de terre, là. Il n'y a plus rien, mais c'est des pommes de terre, ouais, oui. Ouais. Voilà. Et autrement, qu'est-ce qui vous plaît dans le reste là? On est beaucoup de jardiniers, là.
Oui, franchement, c'est très, très bien.
L'ambiance,
l'ambiance, c'est impeccable.
Là, tout le monde s'y est mis pour désherber, pour enlever les détritus, pour installer la serre.
Oui, voilà, c'est ça.
Tout le monde s'y est mis.
Ce travail, on le fait une fois par an. Une fois par an, on nettoie tout le jardin.
Au printemps, on l'a fait aussi, non?
Au printemps, oui.
Au printemps et maintenant, oui.
Voilà.
Il fait pas trop, il fait beau, ça va.
Là, il fait
agréable.
Agréable, exactement, une belle journée. Et franchement, ce jardin, c'est tout est bien pour moi.
Oui.
Les gens du village olympique que je connaissais maintenant, ça fait
on les croise dans l'escalier, ça fait 7 ans
que j'habite au village olympique, et ben ces gens-là, je les connaissais pas.
Et quand on est voisin de jardin, c'est différent.
C'est différent.
Fait connaissance.
Et maintenant, franchement, c'est impeccable.
Ouais.
À chaque fois qu'on sort, on trouve un voisin, bonjour, bonsoir. Parce qu'on se connaît auparavant, je ne connais personne.
On se croise, c'est tout.
Oui, on se lève le matin, travailler, rentrer le soir, et puis voilà.
Il y avait aussi des enfants aujourd'hui avec Erika qui sont allés à l'école dans le jardin aussi. Voilà, non, c'est très. Bon, merci. Hein. On va se retrouver pour le repas, peut-être, je ne sais pas.
Petite ambiance au jardin, samedi dernier, à l'occasion du travail collectif. Autre sujet, toujours sur le village olympique. Il s'agit de parler un petit peu du collège du village olympique. Donc, j'ai rencontré Thibaut, qui est enseignant en histoire au village olympique. Donc, il va nous donner un peu l'ambiance de la rentrée, de cette rentrée. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous parler aussi d'un projet, de club presse. Et il semble qu'ils vont être beaucoup intéressés pour faire un travail avec la radio, avec Radio Kaléidoscope en particulier. Voilà. Donc, Thibaut.
Je suis enseignant au collège du village olympique. Tu peux nous le présenter rapidement?
Je suis enseignant au collège olympique. Donc c'est un collège qui, alors actuellement, doit avoir à peu près 350 élèves, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un chiffre qui augmente tous les ans actuellement. On a de plus en plus d'élèves dans le collège. C'est un collège qui a un collège quartier populaire, qui n'a pas une réputation extraordinaire à l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui évitent. Voilà, beaucoup de familles qui font des évitements. Des familles qui font des évitements, notamment sur les quartiers Vigny, Lucé, etc. Voilà, et après c'est un collège où moi je suis enseignant, je suis content d'y être et où beaucoup de monde y fait bon vivre. On a une rentrée plutôt intéressante, c'est-à-dire qu'on a subi des années difficiles avec des pertes de postes, notamment en vie scolaire, avec de moins en moins d'adultes parce que ça perd un peu dans tous les secteurs. Et puis l'année dernière, il y a eu un peu un ras-le-bol et on a fait un petit mouvement. On a pendant presque 10 jours bloqué le collège.
Oui.
Les élèves n'ont presque pas eu cours, c'était en avril, c'était pas bêtise, c'était un vrai travail entre les parents d'élèves, une bonne partie des parents d'élèves et puis les enseignants, donc on alternait, journée de grève, journée où c'était les parents qui venaient bloquer le collège. On a eu beaucoup de discussions très intéressantes de rentrée, c'était des moments vraiment conviviaux et sympathiques. Et on a gagné des choses pour cette année, on a gagné des postes,
au niveau des postes de surveillants,
au niveau des heures dans l'enseignement, on a quand même gagné des choses. Et là, on a réussi à avoir une rentrée, j'ai envie de dire, un peu plus dans le dynamisme, et ça a fait du bien à tout le monde.
Oui, d'accord. Et alors, on avait évoqué le club presse du collège, ou c'est quelque chose qui existe déjà,
qui se monte cette année. En fait, c'est vrai que là, à la rentrée, on a quand même une équipe qui est assez dynamique, on a envie de faire plein de choses, donc il y a plein de projets.
L'équipe
d'enseignants, ceux qui sont arrivés cette année, ceux qui sont restés les années passées, voilà.
Combien d'enseignants, en tout
fait? Entre les enseignants qui sont vraiment sur le collège, et puis ceux qui viennent pour un bout de poste, qui sont en remplacement, c'est un des soucis qu'on a au niveau, c'est que ça tourne beaucoup. Mais on a une équipe vraiment d'une trentaine de collègues en tout. Donc il y a plein de projets. Et on sait que parmi ces projets-là, comme on est... sur Radio Kaléidoscope, c'est vrai que nous, on s'est dit un club presse qui va se mettre en place avec les élèves, qui sera entre autres axé sur la question de la radio, sûrement. Bon, il y aura un côté internet avec le site du collège,
une chose qui sera mise en place par les élèves.
Et donc Radio Kaléidoscope, parce que probablement, on va avoir l'occasion de se revoir.
Oui.
Voilà, puisque j'imagine que ces élèves passeront à la radio et qu'on aura l'occasion de faire
et aura des rues, c'est un peu son objectif de faire parler, de donner la parole un peu à tout ce qui se passe dans le quartier.
Au collège, on va essayer aussi de donner un peu la parole aux élèves dans un cadre presse, donc sûrement qu'on se rencontrera sur ce terrain-là.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Merci donc Thibaut pour ces bonnes nouvelles du collège, parce que moi j'en avais entendu des mauvaises, mais là ils sont plutôt.
Oui, c'est un collège, ils se sont fragiles, mais quand les équipes sont là et que les gens ont envie, avec les élèves, il y a moyen de faire plein de choses très intéressantes.
Donc, affaire à suivre. Avec Thibaut, enseignant au collège du village olympique, et donc un projet avec des élèves et d'autres professeurs, je crois. On pourrait on avait dit que la couleur de la musique serait latino. Donc, on va écouter Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, la Negra, une Argentine qui est décédée maintenant, mais qui est archi connue en Amérique latine. Et cette chanson s'appelle Cambia, todo cambia, tout change, c'est-à-dire c'est une allusion au vécu des exilés qui ont dû, sans le choisir, en général, changer de pays, s'adapter à un autre pays, où tout change sauf l'amour que je te porte, tout change sauf les projets de société qu'on a, mes souvenirs et les douleurs et les souvenirs de mon peuple, voilà, et aussi beaucoup de ce qui change, l'air, tout est différent, voilà. Cambia, todo cambia, Mercedes Sosa. Et j'ai oublié de donner le nom de l'auteur, qui s'appelle Julio Neumhauser, et qui est chilien, et qui a été exilé également.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia,
Voilà, donc on continue le programme au ras des rues sur Radio Kaléidoscope. On avait parlé la semaine dernière de cette réunion des ateliers populaires d'urbanisme. Donc Antoine et Morgane vont nous faire un petit compte rendu. Voilà.
Petit compte rendu, ouais.
C'était la soirée de jeudi soir. Ça a commencé à 19h. On essaye de faire ça en soirée pour que les travailleurs puissent aussi participer à la réunion. Alors, il y avait 5 tables. On en a parlé la dernière fois. Il y avait une table économie élargissement. Il y avait une table environnement, une table habitat, une table éducation. Et
démocratie locale.
Démocratie gouvernance. Ça faisait pas 5.
Voilà, des ateliers où se répartissaient les gens qui étaient intéressés par les sujets.
Voilà, où il y a eu une introduction générale et ensuite on était tous invités à rejoindre la table par affinité en fait.
Oui, et il y avait à peu près combien de personnes?
Alors, on estime à peu près à 80.
80, moi, oui, entre 50 et 80, je dirais plutôt.
Ouais. Oui. 60, ouais.
Une bonne soixantaine. Mmh. Ouais, ouais, je pense. Mais...
Et parmi eux, il y avait une dizaine d'étudiants de l'école d'architecture qui étaient venus parce qu'ils commencent un travail sur un semestre sur le quartier et la rénovation urbaine. Ouais. Donc Antoine, je sais pas, tu nous présentes un peu quelques tables.
Ouais, je vais commencer par la table économie. Je vais parler du village olympique via le CROUS, en fait. Donc, ça a surtout été un récapitulatif sur l'état d'avancement du projet. Donc, le CROUS, c'est la cité universitaire, ou plutôt l'ancienne cité universitaire qui est située sur le village olympique, qui est vouée à la vente, où il y a un bâtiment, puisqu'ils sont vides depuis un moment, qui est squatté par des demandeurs d'asile. Depuis maintenant 3 ans, et il y a aussi plusieurs autres associations qui seraient intéressées pour utiliser cet espace. Et donc l'idée et le projet que mènent les ateliers populaires d'urbanisme là-dessus, c'est de voir comment on peut rendre ce projet issu vraiment de la volonté habitante et essayer de trouver un terrain d'entente entre toutes les parties prenantes, en fait, aussi bien on peut parler du conservatoire, observatoire, laboratoire des Jeux Olympiques de Grenoble, qui est une association qui promeut un peu l'esprit olympique, qui est, elle, cherche un local, aimerait s'implanter sur le village olympique, parce que ça paraît le plus approprié.
L'idée d'un musée des Jeux Olympiques de Grenoble.
Il y a aussi la question du restaurant universitaire, c'est de là que tout est parti au final, avec donc. En fait, c'est une salle avec une cuisine et qui pourrait servir encore de restaurant de quartier, par exemple. Enfin, voilà, il y a pas mal de personnes intéressées par ça et c'était plus un état d'avancement sur ce projet-là. Ensuite, économie, il y avait aussi un petit point sur les commerces de l'Arlequin, notamment. La difficulté de rester ouvert en tant que commerce.
Oui.
Et l'ambiguïté aussi qu'il peut y avoir entre association et commerce, et comment, puisque c'est assez difficile de rester ouvert pour un commerce, mais les associations ont droit à certaines aides. Et
voilà, c'était un peu en question dans la voilà. J'étais assez stable et c'était un peu en question avec une ancienne commerçante du quartier. Là.
C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les commerces, ça met aussi de l'animation dans le quartier, en fait, et que ce n'est pas le commerce en tant que tel qui intéresse aussi les gens, mais toute l'animation, tout ce qui se crée autour.
Voilà,
les liens qui se créent. Oui. Quand même, un commerce de proximité, c'est pour les personnes âgées, pour les personnes
seules,
qui ont des complications dans le transport.
Pour les déplacements, oui.
C'est un service de proximité, il ne faut pas l'oublier, donc... Enfin, je pense que c'est pas que pour l'animation, mais...
Oui, enfin, je veux dire l'animation au sens général, un peu plus mettre de la vie, en fait. Et permettre qu'il y ait de la vie aussi autour. Ensuite, on peut peut-être passer à une autre table, la table gouvernance. Donc, il me semble qu'il a surtout été question donc, du conseil citoyen indépendant et de la table de quartier. Donc, on en a parlé hier, la semaine dernière, pardon, avec Benjamin. Donc, le Conseil citoyen indépendant, c'est une politique de la ville de Grenoble, avec différents secteurs. Pour nous, c'est-à-dire Village Olympique et Villeneuve, on est sur le secteur G.
Ouais, je crois qu'il s'appelle le secteur G, un truc comme
oui,
ça.
Oui, ça ne recouvre pas tout à fait le secteur 6, parce qu'il y a tout, ouais. Le quartier Beauvert en plus.
Le quartier Beauvert en plus.
Le quartier en plus.
Et il n'y a pas Vigny-Musset.
D'accord.
Sans les quartiers. Si, une partie de Vigny-Musset.
Il y a Vigny-Musset.
Une partie de Vigny-Musset.
Une partie.
Et la table de quartier, qui, elle, est une assemblée aussi d'habitants, mais qui est en lien direct avec la rénovation urbaine et l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et ben, j'imagine que les débats ont été un petit peu sur pourquoi les gens s'y retrouvent et puis l'articulation entre les deux.
Puis surtout vis-à-vis du manque de communication en fait qui a été faite sur ces tables de quartier quoi. Enfin, il y a eu une grosse communication de fait de la part de la mairie sur les conseils citoyens indépendants. Et là, sur les tables de quartier, c'est un peu moins le cas. Et les gens sont pas trop au courant, quoi. Enfin, ils ont juste fait un système d'affiches et des petites urnes dans les maisons des habitants. Mais ça suffit
pas.
Je crois
qu'il y avait une date limite pour s'inscrire.
C'est le 16 octobre, donc vous pouvez toujours. On rappelle que pour postuler, pour être volontaire aux tables de quartier, il faut être habitant du quartier. Donc Villeneuve ou Village Olympique. Ou être un acteur local, donc commerçant, artisan, élu associatif, hein, voilà, tous ces gens.
Et on peut s'inscrire, je crois, dans les
soit
sur internet,
les
peut-être.
Maisons des habitants.
Sinon, ouais. Dans les maisons
il y a
des
habitants. Des petits prospectus.
Et des urnes. Ensuite, je pense que c'était un peu tout ce qui s'est dit à la table gouvernance, démocratie.
Oui,
il n'y avait pas aussi la question de l'université populaire à la table.
On n'a pas eu le temps de l'aborder, en fait.
Ah.
On était assez limité en temps, à cause des organisateurs de cette réunion.
Oui, tu l'avais évoqué dans l'introduction de l'Assemblée, je crois.
Oui, ouais. Bah, notamment, comme quoi, par les APU, il y avait une proposition qui était de lier, en fait, table de quartier et... Enfin, que l'université populaire soit un soutien en expertise pour la table de quartier et puisse être mobilisée voilà, pour former les habitants aux questions d'urbanisme et pouvoir développer vraiment des points de vue construits par rapport aux dirigeants politiques. Et,
concrètement, ça représente qui ? C'est constitué par qui, l'université populaire ?
Alors, il y a pas mal de personnes qui se sont mobilisées, notamment autour de la journée du 2 octobre, marchons pour dire non à la violence, ou non, enfin, la journée...
La journée de la non-violence.
Voilà, la journée de la non-violence. Donc, il y a l'association Modus Operandi, Villeneuve Debout, je pourrais pas être exhaustive sur qui fait partie.
Oui, et puis, enfin... Au-delà de ça, c'est surtout sur les mobilisations, sur les rencontres citoyennes, des conférences débats en fait, qui sont organisées. Donc plus que la journée du 2 octobre, c'est vraiment les conférences débats qui sont comptées. Il y en a déjà eu deux qui ont été organisées.
Mais il y a un lien quelconque avec l'université qui est sur place ou...
C'est une grosse discussion. C'est aussi comment lier les universités qui sont dans notre quartier. Quoi. Donc il y a l'école d'architecture, il y a l'Institut de géographie alpine...
L'Institut d'urbanisme.
Voilà.
Ils font des études et des enquêtes sur nous,
en plus,
les habitants du quartier.
Tous les ans, il y a des élèves de ces écoles-là qui viennent dans les quartiers. Et l'idée, c'est aussi comment associer les universités.
Quel retour on a pour l'instant.
Et puis, l'université, ça doit aussi être ouverte aux habitants qui habitent. Quoi. Donc,
et puis surtout de questionner quelle est l'utilité de la recherche dans les universités pour la société civile. Et c'est comment l'université peut alimenter les débats publics et aider à ce que la société civile puisse avancer sur des problématiques qui lui sont propres. Et de questionner parfois l'écart qu'il peut y avoir entre les problématiques à l'intérieur des universités et des laboratoires de recherche et la réalité de la vie, quoi.
Des quartiers,
des gens,
oui.
Est-ce que
les deux universités qui sont sur le quartier, c'est-à-dire architecture et urbanisme,
il y en a trois. C'est l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, l'Institut de géographie alpine et l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Voilà.
ces trois universités, enfin ces trois instituts, structures qui travaillent sur l'espace, c'est ce qui les relie en fait. Parce qu'il y a, bien sûr, il y en a d'autres qui sont plus sur de la physique, des choses comme ça, et là c'est vraiment l'espace qui est le, au centre.
Oui, puis comme tu le disais, Marie-France, c'est vrai qu'ils viennent souvent dans le quartier faire des ateliers. Là, on avait l'exemple des étudiants d'école d'architecture qui ont un projet sur le quartier. Quoi.
On a eu aussi des étudiantes plutôt de formation éducateur ou assistante sociale.
Assistante sociale l'année dernière, oui, et qui font ça tous les ans, il me semble. Ils font un petit diagnostic du territoire. Et moi, j'avais rencontré celle du village olympique.
Oui, elles étaient venues à l'Assemblée générale de l'Union de quartier, je crois. Mais on n'a pas eu les résultats de leur diagnostic.
Après, juste pour faire un petit point historique, l'école d'architecture de Grenoble, elle est intégrée dans le bâti de la Villeneuve. Et il y avait vraiment à la base, d'ailleurs, il y avait la coursive qui traversait l'école et qui passait autour de l'amphithéâtre, qui était ouvert comme une rue intérieure. Et qu'il y avait vraiment une volonté de lier l'école au quartier, enfin l'université au quartier, et d'avoir un échange plus intégré en fait dans la vie des habitants. Enfin voilà, juste petit point.
Je vais enchaîner sur la troisième table, la table environnement. Donc là, il a été question de l'éco-quartier. Donc qu'est-ce qu'un éco-quartier ? Notamment puisque le projet de rénovation urbaine veut faire de la Villeneuve un écoquartier. Ce serait le premier quartier populaire à être transformé comme ça, en tant que tel, en fait. Et donc, on a essayé de voir avec les habitants en quoi la Villeneuve était déjà plus ou moins un écoquartier, et en quoi ça ne l'était pas, et en quoi on reculait. Donc, il y a eu la question notamment de la collecte de déchets. Donc d'un côté, on a le tri qui est fait, mais pour ce tri, il faut laisser rentrer les camions à l'intérieur du parc. Et du coup, c'est un petit peu paradoxal, parce que d'un côté, on dit on fait le tri pour une vision un peu plus écologique, et de l'autre côté, on laisse... c'est une autre forme de pollution aussi, de laisser des camions rentrer, mais c'est une pollution au niveau... de se faire réveiller tous les matins par un camion, c'est pas forcément l'idéal non plus.
Et la petite chose qui était drôle, qui était ressortie, c'est le fait que depuis qu'ils ont abattu les 60 logements sociaux du 50 Galerie de l'Arlequin, les voitures, il y a certaines voitures qui sont amenées dans le parc, en fait.
Oui, mais ils passent pas par le 50. Ils passent par la rénovation de la rue qu'il y a eu à côté du CCAS, là.
Okay.
Et d'accord. En fait, ils arrivent vu qu'ils ont enlevé une partie des plots, et ils passent par en dessous, sous la galerie, en fait.
D'accord.
Et donc maintenant, il y a de plus en plus de voitures dans le parc, en fait.
Voilà. D'autres points
à... Oui, ensuite, donc, on a parlé de la piscine Iris, puisque c'était dans le cadre environnement et le parc, en fait. Et la piscine Iris, qui est l'ancienne piscine municipale, le bâtiment est toujours là. Et la question de savoir ce qu'on en fait.
Elle est fermée, la piscine, en tant que telle, oui.
Elle est fermée depuis mi-juin. Et là, il y a quelques initiatives qui commencent à émerger, notamment avec... la Batoukavi, mais aussi comment d'autres projets se greffent à ça. Il y a eu la question de Villeneuve-Plage. Donc, Villeneuve-Plage, pour le quartier, c'est quoi ? Et notamment, comment profiter du parc pour créer un événement digne de ce nom. Et il y avait la question de Villeneuve-Plage en faire, du coup, faisant partie de l'été au parc. L'été au parc, qui est la grande animation de la ville de Grenoble, mais qui est monocentrée
au parc Mistral.
Au parc Paul Mistral. Mmh. Et l'idée, c'était de, pourquoi pas en faire dans plusieurs parcs. Il y a le parc des Champs-Élysées, qu'on appelle le parc Bachelard, à côté de la cité Mistral. Donc le parc Paul Mistral, il n'y a pas de souci, il est bien exploité. Et le parc Jean Verlac, donc le parc de la Villeneuve.
Il y a le parc Pompidou aussi.
Parc Pompidou, oui. Mmh. Donc voilà, l'idée c'était de...
Maria avait utilisé aussi, dans le quartier Saint-Bruno.
C'était de faire un été au parc, mais au pluriel. Et en même temps, cet été avec Villeneuve-Plage, on a eu l'occasion de voir un petit peu quelle utilisation serait possible pour la piscine. Et ça a été justement l'occasion d'avoir une vision un peu croisée entre les perspectives qu'il y a pour la piscine et puis les attentes un peu des habitants. Voilà pour la table environnement.
Du coup, moi j'enchaîne sur la table habitat, où il a été débattu du plan de sauvegarde. Donc c'est le plan de rénovation, d'aide à la rénovation aux copropriétés de la Villeneuve et notamment de l'Arlequin. Et c'est une question très très polémique parce que certaines montées de l'Arlequin sont totalement en copropriété, mais certaines sont mixtes entre logement social et copropriété. Et donc, le temps de la rénovation, le coût de la rénovation est très imbriqué entre le coût pour les propriétaires et le coût pour les bailleurs sociaux. Et donc, en fait, on demande un effort financier pour les propriétaires qui est très important et qui risque de faire aussi ralentir la rénovation ou mettre en grande difficulté les propriétaires habitants la plupart du temps.
Surtout que c'est des petits propriétaires souvent, enfin c'est pas...
Et qu'aujourd'hui, leur logement, il vaut pas grand-chose sur le marché, donc ils peuvent pas vendre, notamment il y a pas mal de personnes âgées qui peut-être souhaiteraient vendre pour aller vivre ailleurs, notamment du fait qu'il y a des escaliers dans les logements. Dans une bonne partie, et c'est pas possible parce qu'ils gagneraient pas assez, enfin ils retireraient pas assez d'argent pour aller ailleurs. Oui. Donc il y a cette question des imbrications, des temps, et il y a aussi la question qui est très liée de ce qui a été fait, enfin qui est en train d'être fait au 40 en termes de rénovation. Et normalement un modèle pour la rénovation des autres bâtiments. Et donc là, il y a une forte demande d'évaluation de cette rénovation, des coûts, des problèmes, des erreurs, pour ne pas refaire la même chose sur les autres, pour mieux évaluer le déroulé de cette rénovation. Voilà, donc ça c'est une forte demande. Il y a notamment, donc à cette table, ils ont parlé de la création d'un DAL Grenoble, donc association
droit au logement,
qui est une association, enfin c'est un réseau national qui défend les locataires et les propriétaires également sur le logement, le mal logement. Et voilà, qui s'est créé cette année à Grenoble,
qui s'est recréé,
existait.
C'est en lien avec la loi
Dalo. Oui, en fait, c'était une des revendications du DAL qui a créé la loi Dalo. Voilà. Et il y a une des questions, tout ça est transversal, hein, parce que voilà, sur la question du prix des logements et l'inquiétude de l'augmentation du prix des logements par la rénovation urbaine et le renouvellement de population, ou plutôt le déplacement des populations.
La mise à l'écart de certaines populations.
La mise à l'écart de certaines populations qui ne pourraient plus payer les loyers. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, il y a des personnes qui dénoncent des déplacements contraints ou sur d'autres arguments, par exemple sur la rénovation. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont à éclaircir. Voilà, et donc je passe à la dernière table qui était la table éducation, où on a parlé donc du PEDT, le projet éducatif de territoire. Donc il y a la réunion à 18h le 15 octobre sur les rythmes scolaires. Mais en fait, à la base, c'est sur le projet éducatif de territoire. Et en fait, dans cette réunion, on va parler principalement du rythme scolaire, alors qu'il y a aussi une question qui est en tout cas portée par pas mal par des personnes dans les ateliers populaires d'urbanisme sur le contenu et sur comment, alors voilà, on fait un projet fort, un projet éducatif fort des richesses et des caractéristiques du territoire. Donc, là, la proposition, c'est déjà de se réapproprier ça par rapport aux choses qui sont déjà en place sur le quartier et de créer peut-être donc cette proposition d'un comité de pilotage au niveau du quartier pour identifier quelles sont les caractéristiques, les richesses, les actions en place. Et d'ailleurs, je vais vous en citer une, enfin deux. Il y avait les trois membres des ateliers de rue de Madame Rutabaga qui étaient présents à La Réunion et du coup qui tiennent des ateliers de rue tous les vendredis après-midi à 16h place des Géants et le samedi à 14h côté Arlequin. Et il y a aussi le lancement d'une session où on va concevoir des bancs pour la place des Géants pendant les vacances de la Toussaint au centre de loisirs de l'ACL des Baladins. Voilà. Et il y avait aussi une discussion autour d'un projet sur le numérique et les logiciels libres. Donc comment apprendre à se servir des outils numériques et être critique par rapport à ça dans les écoles. Et sur l'idée de décloisonner l'école et d'apprendre dans la rue. Voilà.
Tu veux rajouter quelque chose sur l'Assemblée des ateliers populaires d'urbanisme?
On a parlé de l'augmentation des charges. Et on en a parlé aussi à la table environnement, notamment avec un écoquartier, la transformation, qu'est-ce que ça engendre, et c'est un peu les peurs. Et ce que je voulais ajouter, c'était qu'à la base, le projet de rénovation urbaine, l'ANRU 1, il a été pensé comme une mixité sociale. Donc la mixité sociale, c'est un peu le discours qu'on vend pour dire... on va écarter les pauvres du quartier et on va mettre d'autres classes sociales
qui pourront payer le...
Oui, c'est ça. D'accord. Et l'idée originelle, c'était de passer pour l'Arlequin seulement, donc de 75% HLM et 25% privé à 50-50 en 10 ans.
Sachant que sur le quartier, en fait, il y a 50-50 sur l'ensemble du quartier de la Villeneuve.
Sur l'ensemble du quartier.
D'accord. Bien. Une dernière musique qui sera un petit clin d'œil après ce compte-rendu de l'Assemblée des ateliers populaires d'urbanisme, très complet. On aura peut-être aussi l'occasion d'en reparler, puisqu'il s'agit vraiment de la vie de nos quartiers et des conditions de la vie des habitants. Un petit clin d'œil parce que c'est une fanfare d'Amérique latine, la fanfare de Santiago, la fanfare municipale de Santiago, Cuba, qui nous joue... La petite cantate de Barbara.
Thank you.
Voilà, c'était la petite cantate par la fanfare municipale de Santiago de Cuba. Un petit clin d'œil entre l'Amérique latine et la France. Quelques nouvelles encore. Morgane, tu voulais nous parler de la brocante de Villeneuve.
Alors moi, je voulais vous parler du coup de samedi où il y a eu donc à la Villeneuve la brocante, où il y a eu de la musique avec le studio du Petit Bonheur et un collectif qui collectait des fonds pour payer un bus pour monter à la manif du 31 octobre à Paris. Pour l'anniversaire de la mort de Ziad Ebouna en 2005 à Villiers-le-Bel. Et puis, l'après-midi, je suis allée aussi à la au rassemblement de soutien aux migrants qui se déroulait au jardin de ville et où il y avait beaucoup d'interventions, de stands, de droits, de défense, etc. Voilà. Et il y avait une jolie manifestation.
D'accord. Et donc, c'était en soutien aux migrants, toutes les associations qui s'étaient regroupées, la Pardap, vous avez là, des partis, des syndicats, je crois qu'il y avait aussi.
Oui, il y avait pas mal de gros sangas, voilà. Et en même temps.
Et le dernier point que je voulais aborder, ça se passe aussi le jeudi 15 octobre. Il s'agit dans le cadre du Forum itinérant des langues du monde en Rhône-Alpes, un forum qui a lieu donc d'habitude sur Lyon, ou la région de Lyon, et qui pour la première fois organise une rencontre dans l'Isère. Ce sera jeudi 15 octobre à 18h30 à l'espace Rhône-Alpes, 5 rue Eugène Faure à Grenoble, c'est à côté du rectorat. Donc une rencontre, le forum a sollicité des associations de Français, d'étrangers pour essayer de montrer le mélange de langues qu'il y a en Rhône-Alpes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.